c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Yacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, Sergueï Lavrov était mardi à Alger.
Oui, l'occasion comme hier de questionner les relations entre la Russie et les pays du Sud qui n'ont sur la guerre en Ukraine qu'un intérêt lointain, voire distant, comme l'ont prouvé depuis deux mois plusieurs votes à l'Assemblée Générale de l'ONU. Le ministre des Affaires étrangères russe a donc rencontré mardi son homologue algérien et le président Abdelmajid Tebboune. Il a été question de coopération économique sur l'énergie, de coopération militaire entre deux pays dont on ne peut pas dire qu'ils forment une alliance, car ils refusent tous les deux les logiques de bloc, mais qui partagent du monde une représentation commune. D'après vous, Adlène Mohamedi, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur scientifique du cabinet de recherche AESMA et enseignant à Paris 3. Votre thèse à Paris 1 portait sur la politique arabe de la Russie post-soviétique. Alors pour rester d'abord sur des questions très, disons, pratiques, on sait que les Européens sondent l'Algérie pour savoir si elle pourrait augmenter ses exportations en gaz vers l'Europe afin de diminuer la dépendance européenne au gaz russe. Est-ce que l'Algérie le veut? Et surtout, est-ce qu'elle le peut? Ses infrastructures pourraient-elles supporter un effort supplémentaire de production?
C'est vraiment la principale question et il se trouve que c'est une question d'abord intérieure et c'est une question d'abord algéro-algérienne. Et la principale difficulté algérienne, c'est justement de répondre à la demande intérieure. Et la demande intérieure en Algérie est importante. Et c'est finalement la principale limite à d'éventuelles exportations susceptibles de se substituer au gaz russe. Donc la principale question finalement c'est celle-là, mais c'est une question qui est assez ancienne en Algérie. L'Algérie connaît une forte demande intérieure. Cette forte demande intérieure empêche de se projeter en termes d'exportation et pousse les Algériens à vouloir toujours plus d'investissement justement en termes d'exploration, par exemple, d'éventuels nouveaux gisements.
Ça fait manifester les Algériens dans plusieurs régions où on veut explorer le gaz de schiste.
Absolument, oui. La question du gaz de schiste a posé problème, notamment il y a une dizaine d'années, dans le sud algérien. Ça a suscité quelques émeutes. Mais au-delà du gaz de schiste, les Algériens veulent plus d'investissements et ces investissements ne seraient pas russes pour le coup. Donc l'Algérie dépend d'autres partenaires que de la Russie sur cette question, notamment des États-Unis.
Des États-Unis. D'ailleurs, Sonatrach, qui est cette grande entreprise algérienne à la fois gazière et pétrolière, on sait combien sa gouvernance est difficile, comme on dit, elle ne se porte pas très bien, les présidents n'arrêtent pas de valser. Est-ce que ces cadres, d'ailleurs, à Sonatrach, ont été formés en URSS, en ex-URSS, comme c'est beaucoup encore le cas dans l'armée?
Bah justement, c'est toute la différence entre le secteur énergétique algérien et l'armée. Dans le secteur énergétique, les cadres sont plutôt formés aux États-Unis ou en France, dès le début d'ailleurs. Hein, dès les premiers dirigeants de la Sonatrach, on avait plutôt des gens formés dans les grandes écoles françaises, les Ponts et Chaussées par exemple, plutôt que dans des écoles russes, là où les généraux, les officiers algériens avaient une formation soviétique.
Adlène Mohamedi, de la même façon pour le pétrole, puisque les pays du G7 se sont accordés avant-hier pour se sevrer progressivement du pétrole russe, que peuvent-ils demander à l'Algérie et qu'il a encore soit faisable et que l'OPEP puisse approuver? La Russie participe depuis 1993 aux discussions de l'OPEP sans en être membre, contrairement à l'Algérie.
Alors, pour ce qui est des relations entre l'OPEP et la Russie, l'Algérie joue un rôle plutôt marginal. Comme pour tout d'ailleurs, j'ai envie de dire, dans le monde arabe, le centre de gravité aujourd'hui, c'est le Conseil de coopération du Golfe. Les principaux partenaires de la Russie sur cette question sont les pays du Golfe, c'est-à-dire essentiellement les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Et dans la mesure où l'Arabie saoudite n'a pas tourné le dos à la Russie et n'a pas remis en cause l'accord OPEP+, entre la Russie et l'OPEP, en refusant justement d'augmenter drastiquement la production comme c'était demandé par les Américains, les Russes sont plutôt satisfaits. Donc là, l'Algérie, on va dire, sur cette question, n'est pas un acteur central.
Alors, la coopération entre l'Algérie et la Russie est basée essentiellement sur les questions militaires. L'Algérie est le troisième client de la Russie, après l'Inde dont nous parlions hier, et la Chine. Il faut rappeler l'épisode sans doute fondateur qui a fait de l'Algérie ce client très fidèle de l'industrie de l'armement russe. C'était une visite de Vladimir Poutine en Algérie en 2006, donc c'était son deuxième mandat.
Absolument, oui. Il faut savoir que le premier mandat de Vladimir Poutine était un mandat très Très occidental, c'est-à-dire qu'il s'intéressait surtout à ses partenaires occidentaux. Il voulait un partenariat avec Washington, d'ailleurs c'était le premier à avoir appelé George Bush après les attentats du 11 septembre. Il s'est très tard intéressé au Moyen-Orient et à l'Afrique du Nord. Donc il a fallu attendre le deuxième mandat justement, et pour qu'il s'intéresse aux pays arabes, notamment sous l'impulsion d'un grand arabisant qui a été premier ministre en Russie, qui s'appelle Yevgeny Primakov. Et c'est à ce moment-là que effectivement il y a eu ce deal, on va dire, on va effacer la dette algérienne et en échange on demande aux Algériens d'acheter de plus en plus de matériel russe.
C'est ce que Vladimir Poutine vient de dire. On efface 4 milliards 700 millions de dollars et dans la foulée, l'Algérie s'engage à en dépenser 7 milliards et demi de dollars en armes russes.
Absolument, oui. Il faut savoir que les pays arabes sont très gourmands en armes. Hein. Sur les 10 principaux importateurs d'armes, vous avez 6 pays arabes, ce qui est assez incroyable, ce qui est énorme. Mais pour ce qui est de l'épisode fondateur, je dirais que ça remonte plutôt aux années 70, c'est-à-dire qu'au moment des tensions entre l'Algérie et le Maroc, l'Algérie commençait à importer du matériel soviétique à hauteur de 90%. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 65%. Et cette dépendance est, dans le cas algérien, plutôt une interdépendance. Alors, par exemple, si vous comparez avec la situation en Syrie, les Syriens dépendent des armes russes, mais les Russes ne dépendent pas de la Syrie. Pour ce qui est de l'Algérie, quand vous avez l'Algérie qui est troisième importateur entre la Chine et le Vietnam, là, on peut parler d'interdépendance, effectivement. Et la Russie a besoin aussi d'un client comme l'Algérie.
Vous listez dans vos travaux, Adeline Mohammadi, les armes que l'Algérie a achetées à la Russie entre 2000 et 2019. Alors, on peut en citer rapidement 200 aéronefs, 500 tanks, des systèmes de défense antiaérienne, notamment des Pantsir ou des S-300, et puis une modernisation aussi du matériel livré. En tout cas, les dépenses sont faramineuses.
Faramineuses, oui, absolument. Alors, la justification est géopolitique, hein, ce sont les tensions régionales. Dans les faits, on peut évidemment se poser quelques questions. Est-ce que ce matériel sert vraiment quand on sait finalement que les nouveaux risques auxquels est confrontée l'Algérie sont multidimensionnels? Par exemple, je pense à la question environnementale, aux incendies de l'été dernier. Là, ce ne sont pas les armes russes qui risquent de servir à quelque chose.
Mais ils ont acheté quand même des bombardiers,
absolument.
Comment ça s'appelle, contre les incendies.
Tout à fait, à l'issue de ce problème, de ces incendies. Donc ils ont un peu tardé à le faire, mais effectivement, oui, on a affaire à une sorte de climat géopolitique régional qui justifie depuis les années 70 ces achats.
Quelle représentation du monde partagent les régimes russes et algériens? C'est la question des enjeux internationaux ce matin qui reçoivent le chercheur Adeline Mohammadi.
Et puisque vous remontez aux années 70, Adeline Mohammadi, de la même façon qu'on a évoqué hier pour l'Inde, la manière dont les relations se sont renforcées avec la Russie pendant la guerre froide, alors même que l'Inde était un pays non aligné, eh bien il en est de même pour l'Algérie, non alignée, mais qui conservait de très bonnes relations avec Moscou. Pourquoi?
Alors, il faut savoir que dès l'indépendance algérienne en 1962, l'Algérie a voulu se tourner vers l'Union soviétique, à l'époque dirigée par Nikita Khrushchev, qui était plutôt hésitant, plutôt réticent. Il avait une formule qui était assez désagréable d'ailleurs. Il a dit « Nous ne voulons pas finalement de Cuba. Vous avez un bon partenaire, le général de Gaulle, gardez-le. » Donc au début, plutôt réticent. Ensuite, dans les années 70, ce partenariat s'est de plus en plus développé, notamment dans le domaine de l'armement, comme on l'a rappelé, avec une demande algérienne de plus en plus importante, justifiée par les tensions avec le Maroc. Jusqu'à aujourd'hui, effectivement, dans la période post-soviétique, la Russie est demeurée un partenaire important, une sorte d'alternative, mais une alternative qui n'empêche pas de conserver de bonnes relations, évidemment, avec ce qu'on appelait avant le bloc occidental.
Même si vous rappelez bien, vous l'avez dit tout à l'heure, que de nombreux cadres de l'armée formés dans leur jeunesse l'ont été en URSS, la nouvelle génération dans l'armée est peut-être moins russophile. Ce que vous expliquez dans vos travaux, c'est que Russie et Algérie, plus précisément les régimes russes et algériens, partagent du monde une représentation commune, une même flexibilité dans leurs relations internationales.
Absolument. Alors, je dirais qu'il y a deux points communs. Le premier point commun, c'est le recours à la politique étrangère comme outil de politique intérieure. C'est-à-dire, si demain il devait y avoir une importante campagne électorale en Russie, on serait tenté de parler par exemple des inégalités socio-économiques, etc. Et les problématiques extérieures sont bienvenues pour le pouvoir russe. C'est vraiment l'élément qui suscite une véritable cohésion.
Mais c'est aussi un élément de puissance.
Absolument.
Alors que pour l'Algérie, ça l'est moins.
ça l'est moins. C'est-à-dire qu'on a moins, du côté russe, on a une véritable projection, côté algérien, on ne l'a pas, mais il y a cette volonté, finalement, d'entretenir une sorte de complexe obsidional, une mentalité d'assiégé, et ça, c'est un point commun entre les deux, hein. Effectivement, dans le cas algérien, ça concerne principalement le Maroc et la France de manière beaucoup plus, on va dire, artificielle, en réalité.
Parce que vous expliquez notamment que tous les rapports qui ont été commandés sur les questions mémorielles entre la France et l'Algérie, en fait, ont servi plus ou moins les intérêts du régime algérien et que c'était pas une priorité pour notamment tous ceux qui ont manifesté pour le Hirak.
Absolument. Ça n'a jamais été une priorité populaire. C'est une priorité. C'est une manière un petit peu d'entretenir une forme de ressentiment. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment ce point commun entre les deux, hein, ce recours à des questions extérieures à des fins de politique intérieure. Et l'autre point commun, c'est ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire cette flexibilité, ce refus revendiqué dans les deux cas, et notamment dans la doctrine russe en politique étrangère, ce refus de la logique des blocs, ce refus des alliances contraignantes, et on retrouve ça évidemment des deux côtés.
Et la mise en avant aussi commune de l'importance de la stabilité, la lutte antiterroriste, c'est un sujet sur lequel Algérie et Russie se retrouvent beaucoup.
Absolument, oui. Effectivement, les deux pays ont été confrontés à cette problématique dans les années 90 et dans les années 2000, la Russie notamment en Tchétchénie. Et ça, effectivement, ça les rapproche, notamment en termes de rhétorique, parce que la question du terrorisme, c'est aussi une question rhétorique. La rhétorique antiterroriste, c'est une rhétorique, là encore, à des fins de consolidation du pouvoir en place. Donc ça, c'est un véritable point commun, effectivement.
Mais Adlan Mohamedi, pour conclure, la Russie, elle, n'a jamais été désignée par le pouvoir algérien comme l'une de ses mains étrangères, comme il le dit souvent, qui tenterait de voler sa souveraineté à l'Algérie.
Non, jamais. Ça l'a été rarement par les manifestants au moment du soulèvement populaire, hein, du Hirak, puisqu'on a reproché à la Russie une certaine complaisance à l'égard du pouvoir algérien. Mais en réalité, d'autres pays ont été beaucoup plus complaisants à l'égard du pouvoir algérien. Donc la Russie ne s'est pas distinguée sur ce dossier. Donc il y a vraiment une volonté le mot que vous avez employé juste, hein, ce mot de flexibilité, Washington demeure un partenaire privilégié, par exemple, pour l'Algérie. Donc on a tendance à l'oublier. On veut penser que l'Algérie est un allié de la Russie, et par exemple que le Maroc est un allié de Washington, mais dans les faits, le Maroc garde des relations avec la Russie et l'Algérie conserve de bonnes relations avec Washington.
Tout ça est toujours beaucoup plus complexe qu'on ne le pense et on l'a également rappelé hier avec l'Inde. Merci beaucoup Adlan Mohamedi d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur scientifique du cabinet de recherche AESMA et enseignant à Paris 3. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci, les enjeux c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour de nouveaux enjeux territoriaux à 6h10 et vos enjeux internationaux, Julie Gacon, à 6h45.
France Culture. L'esprit d'ouverture.